Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Emeline Amétis.
C'est parti!
Elsie Widowson, Virginia Abgar, Anne McLaren, Marie-Claire King, Françoise Barré-Sinoussi, ces femmes ont en commun d'avoir été des médecins illustres mais oubliés, embryologues, généticiennes ou encore virologues. Alors en pleine épidémie, cette semaine, on va parler de la place des femmes dans la médecine, côté soignante et côté patiente. Mais d'abord, on accueille une nouvelle chroniqueuse dans Quoi de Meuf. Est-elle épidémiologiste ? Non, mais ce n'est pas grave. C'est Emeline Amétis. Salut, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Merci Clémentine. Je suis super contente de rejoindre cette équipe incroyable de meufs. Et alors, pour faire court, je suis une journaliste de 28 ans, féministe depuis la préadolescence, passionnée de cinéma, de musique et de photographie. Et vous m'avez peut-être lu sur des sujets société et pop culture sur Slate et Vice, entre autres.
Donc Emeline remplacera Kiemis, qui est partie pour d'autres aventures, mais qu'on va continuer à suivre et qu'on embrasse. Voilà, en tout cas, bienvenue Emeline. Et la question traditionnelle, comment ça va ?
Eh bien écoute, ma mère dit souvent « on fait aller » et ça avait tendance à m'agacer plus jeune qu'elle ne réponde jamais un vrai, authentique et simple oui. Mais malheureusement pour moi, je comprends de plus en plus le mood. En fait, on fait aller parce que le mode survie est activé, tout simplement. Du coup, je prends soin de moi, j'y parviens pas toujours, mais j'essaie. Je joue beaucoup aux jeux vidéo et j'évite de trop me projeter dans l'avenir parce que ça donne le vertige. Et à part ça, et c'est le moment auto-promo, je suis très fière d'avoir collaboré au hors-série magazine de Génération XX. Génération XX, à la base, c'est un podcast de témoignages de femmes qui racontent leur parcours, leurs idées et ambitions. Et pour célébrer la diffusion du 100e et dernier épisode, la fondatrice du projet Siam Djibril a décidé de faire paraître un magazine sur le thème à l'écoute. Donc c'est à l'écoute de soi, des autres et du monde. Et j'ai eu le plaisir de travailler sur l'histoire et plus particulièrement sur le vaste sujet, l'histoire est-elle condamnée à se répéter ? Bref, voilà, je ferme la parenthèse auto-promo. Et toi Clémentine, comment est-ce que tu vas ?
Écoute, déjà, tu me feras le plaisir de faire tourner ce magazine qui a l'air très cool. Puis moi, de mon côté, c'est le reconfinement, donc voilà, on ne va pas s'apesantir dessus. On va plutôt s'intéresser aux news féministes de la semaine. Quelles sont-elles ?
Eh bien écoute, moi je pense que la bonne nouvelle féministe de l'année, c'est sans commune mesure la fin de la présidence de Donald Trump aux États-Unis. Enfin quoi.
Ouais.
Je t'avoue que j'ai mieux dormi en sachant qu'on en avait fini avec lui et son équipe. 2020 aurait atteint un level de merde inégalé sinon. Et cette défaite, on la doit en partie à une femme noire et à sa campagne menée en Géorgie. J'ai nommé l'avocate et militante démocrate Stacey Abrams. Yay. En reprenant l'un des principaux combats du mouvement des droits civiques, c'est-à-dire le droit de vote, plus de 4,95 millions d'électeurs ont participé à l'élection de 2020 contre 4,1 millions en 2016. Et c'est ainsi que la Géorgie est passée du rouge au bleu.
If the power of the right to vote was truly made available to everyone in America, it would change the future of this nation.
Bien joué, Stacey. Alors, vous pouvez aussi réécouter notre épisode sur Kamala Harris. Donc, maintenant qu'on se réjouit de la victoire de Joe Biden et qu'on attend que Donald Trump soit peut-être délogé de la Maison-Blanche manu militari, il faut quand même rappeler que Joe Biden a des histoires d'agression sexuelle aux fesses, notamment de la part de Tara Reid, qui était une ancienne collaboratrice en 1993.
Et il faut aussi rappeler que Kamala Harris, elle s'est déjà montrée très dure envers les personnes trans et les travailleuses et travailleurs du sexe, comme en 2008, alors qu'elle était procureure générale de San Francisco, Kamala Harris qualifiait de franchement ridicule une proposition visant à décriminaliser le travail du sexe, et elle a plus tard confirmé ses positions en arguant que les TDS étaient en partie responsables de la transmission d'IST, et plus particulièrement du VIH. Elle est finalement revenue sur...
C'est ça, oui.
Ouais, elle est finalement revenue sur ses déclarations une dizaine d'années plus tard, bien sûr, après avoir voté en faveur de la loi Sesta-Fosta, hein, et en disant qu'elle préférait viser les clients, donc pas mieux. Bref, on a vu moins à bolo, et personnellement, je suis plus contente que le monde entier se soit débarrassé de Trump qu'autre chose.
Ouais, bon, ça, c'est pas encore 100% garanti pour l'instant.
Non.
Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a quand même la première femme trans qui a été élue sénatrice aux États-Unis, c'est dans l'état du Delaware, et c'est Sarah McBride. On est ravis pour elle. Alors, pour parler du sujet qui nous anime cette semaine, on va donc parler de médecine et de femmes À l'occasion, évidemment, de cette crise du Covid qui s'éternise, il faut également rappeler que l'Agence du médicament vient d'être mise en examen pour blessure et homicide involontaire par négligence dans le scandale de la dépakine. Donc, c'est un antiépileptique qui était pris pendant la grossesse par de nombreuses femmes et qui a entraîné un handicap pour 15 000 à 30 000 enfants. Et ce scandale a éclaté grâce à une lanceuse d'alerte qui s'appelle Marine Martin et qui a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet.
Dans un premier temps, je voulais absolument que ce qu'on appelle le consentement éclairé informer les femmes épileptiques et bipolaires qui étaient susceptibles de prendre ce médicament qu'elles avaient 30 à 40% d'avoir un enfant autiste ou des malformations dans 10% des cas. Donc c'était gigantesque. Et moi, si j'avais su que je risquais de faire encourir ce risque-là, jamais j'aurais eu une grossesse sous dépakine, quoi. Donc c'était impensable parce que derrière, on a ce sentiment de culpabilité qui nous habite. J'ai empoisonné mes enfants, j'ai ingurgité ce cachet quotidiennement. Et ça, c'est très dur à vivre.
Et l'autre actualité du moment, c'est aussi la parution d'un autre livre, celui de Delphine Bauer et Ariane Puccini, qui s'appelle « Mauvais traitement, pourquoi les femmes sont mal soignées », qui est paru aux éditions du Seuil en octobre. Et on va justement se pencher sur la question un peu plus tard.
Bah ouais, puisqu'on le répète depuis le mois de mars, mais près de 9 infirmiers et infirmières ou aides-soignants sur 10 sont des femmes, tout comme les étudiants et les étudiantes venues aider et les personnels des EHPAD. D'ailleurs, notre ancienne secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, avait appelé à une revalorisation des métiers dits féminins. Alors, on a beau eu les applaudir, ça n'a pas empêché qu'en juin dernier, une infirmière avait été violemment interpellée par les forces de l'ordre pendant une manifestation de soignants et de soignantes.
On vient manifester et on nous gaze. On nous gaze. On asphyxie déjà dans les hôpitaux. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Ça veut dire que même quand on vient vous dire au secours, on va pas bien, vous nous rajoutez des gaz pour qu'on se taise. C'est toute cette symbolique que ça a pris dans ma tête.
Depuis, on se demande où est le plan massif pour l'hôpital promis par Emmanuel Macron et pourquoi le gouvernement continue à fermer des lits d'hôpitaux.
Ça veut dire qu'on va travailler sans matériel. Voilà, on trouve rien, on est obligé de c'est la démerde. C'est fabrique-toi des blouses, fabrique-toi des masques, passe-toi d'une collègue à une autre parce qu'elle en a et moi j'en ai pas, donc on s'en prête.
Oui, et à payer les infirmiers et les infirmières moins de 2000 euros. Voilà, c'est un grand mystère. À l'inverse, les experts des plateaux télé et les épidémiologistes qui se succèdent un peu partout dans les médias depuis quelques mois sont aussi le plus souvent des hommes. Les femmes expertes ne sont que 5%, donc n'oubliez pas de les inviter, téléphonez à Catherine Hill, voilà, faites ce que vous avez à faire. Alors, on va faire un petit historique d'abord. Comment en est-on arrivé là et qu'est-ce que la médecine fait au corps féminin? Alors, il faut savoir d'abord que dans la construction des savoirs scientifiques, la médecine va être centrale pour les questions de genre, puisqu'elle va intervenir tout au long de l'histoire pour forger et maintenir des normes, assigner la différence sexuelle et ce qu'on appelle la bicatégorisation des sexes. Donc justement, ces différences, elles ne sont pas données, elles sont construites au fil du temps, on le sait maintenant. Il est quand même intéressant de noter, par exemple, que dans l'Antiquité, on croyait à une continuité entre les sexes, donc entre le vagin et le pénis, contrairement à aujourd'hui, mais évidemment, il y avait déjà à l'époque cette hiérarchie qualitative, puisque la femme était vue comme imparfaite. Et donc, pour la médecine hippocratique, qui étudiait ce qu'on appelait les tempéraments et les fluides du corps, l'homme avait un tempérament dit chaud, grâce au sperme et au sang, et la femme un tempérament dit froid, à cause de son lait et du sang de ses règles. Et froid, c'est moins bien que chaud. Voilà. Pour la démonstration très résumée.
Super, super scientifique.
Donc, entre la Renaissance et le siècle des Lumières, va vraiment se forger l'idée que l'utérus est la matrice pour les femmes, et surtout que l'utérus est négatif, que c'est une force incontrôlable. Et ensuite, chaque nouvelle discipline de la médecine va venir appuyer ces découvertes qui vont toujours dans le même sens. Donc il y a la physiologie selon laquelle les femmes seraient flegmatiques, l'anatomie qui dit que le squelette féminin serait différent, la génétique, etc. Alors, quand bien même de rares penseurs et penseuses, par exemple comme Poulain de la Barre ou Gabriel Suchon, vont essayer de dénaturaliser ces arguments et dire que non, ces différences ne sont pas naturelles, c'est plutôt une question d'éducation, que par exemple il y a des femmes qui sont robustes, voilà, rien n'y fait, et donc c'est ainsi qu'on va aboutir à l'avènement d'une médecine à la fois patriarcale, coloniale, blanche et validiste, et en tout cas, ça ne facilitera pas l'exercice de la médecine par les femmes.
Et à ce sujet, figure-toi que le 11 avril 1803, une loi qui était censée réglementer la profession de pharmacien en France, donc on se dit comme ça que ça n'a rien à voir, elle met fin à la tolérance que l'on accordait auparavant aux veuves de pharmaciens. Celles-ci ne peuvent plus reprendre l'activité de leur défunt mari.
Surprise !
C'est d'ailleurs l'un des points qui motivera cette loi. Un paragraphe de l'exposé des motifs explique, je cite, « Vous observerez que la pharmacie étant moins un métier qu'une profession savante, elle doit par conséquent être interdite aux femmes. »
Logique.
Ouais, logique. Cette loi, elle interdit donc pas formellement la pratique de la médecine aux femmes, mais elle dit long de la misogynie française en la matière. Et elle est surtout paradoxale puisque tout le monde s'accorde à décrire l'essence maternelle des femmes, tu sais, ce qui est censé leur donner naturellement vocation à prendre soin de leur prochain. Autrement dit, si le savoir est aux hommes, le soin du foyer comme du corps, eh ben ça revient à qui ? Aux femmes.
Oui, et puis surtout, c'est un soin qui n'est pas reconnu, n'est pas valorisé et n'est pas rémunéré. Donc ça arrange bien tout le monde. En tout cas, c'est une situation, tu l'as dit, qui est paradoxale et qui reste complexe aujourd'hui. En fait, elle était plutôt officieuse hier, mais de fait, en France comme ailleurs, les femmes ont en fait toujours pratiqué la médecine. C'est surtout leur statut au regard de la loi qui a évolué et en ce sens, l'université n'a pas toujours eu le beau rôle.
Non, effectivement, on peut dire ça, puisque en 1270, la faculté publie un décret qui interdit d'exercer la médecine à celles et ceux qui n'ont pas suivi son enseignement. Et ça, c'est plutôt pratique quand on sait que l'université, elle a longtemps été réservée aux hommes célibataires. Et pourtant, les femmes, elles s'illustraient dans la médecine et la chirurgie depuis l'Antiquité. Hein. L'histoire retient entre autres Magistra Hirsand, chirurgienne royale qui a accompagné Louis IX jusqu'en croisade, à peine 20 ans avant le décret discriminatoire donc. Et justement, la première à en faire les frais de ce décret, ce sera la noble italienne Jacqueline Felici de Almania, poursuivie pour exercice illégal de la médecine en 1322. Et par ailleurs, il faut savoir que l'Italie, elle était beaucoup plus paritaire à ce niveau-là, puisque l'école de médecine de Salerne, c'était la première école de médecine du Moyen-Âge. Elle enseignait aussi bien aux hommes qu'aux femmes, et de la noblesse, bien sûr, puisque c'est à préciser.
Pendant ce temps-là, en France, on interdit aux femmes de pratiquer à la fois la médecine et la chirurgie, en tout cas officiellement, puisque qu'elles aient été religieuses, sorcières, guérisseuses ou ventrières, beaucoup ont continué d'exercer, mais de manière non reconnue.
Ouais, Clémentine, t'en parlais déjà dans le premier épisode de Quoi de Meuf, hein, comme quoi. Celui que vous aviez justement consacré aux sorcières et à leur héritage féministe. Mais ces dites sorcières, en fait, elles étaient en réalité souvent des guérisseuses, des herboristes, des ventrières que l'on appelait matrones avant et puis que l'on a appelées sages-femmes plus tard. Elles avaient à la fois le savoir et la charge de soigner avant que les médecins officiels ne les chassent.
Oui, puisqu'ils disaient ne plus avoir besoin des ventrières, donc ces femmes qui accouchaient d'autres femmes sans connaissance théorique, mais avec l'héritage de celles qui les avaient précédées dans cette tâche. Donc à quel motif ? Eh bien, l'Académie les accusait d'être malpropres, je cite. Alors que les chirurgiens se sont quand même très tardivement lavé les mains, donc voilà, c'est effectivement l'hôpital qui se fout de la charité. Et donc la médecine moderne s'est construite en lien direct avec la chasse aux sorcières. Ça, c'est Mona Chollet qui l'a expliqué récemment dans son livre dont on a déjà parlé ici plusieurs fois.
Vous devez donc vous humilier profondément et vous asseoir dans la poussière, considérant le signe que vous a fait la main de Dieu en choisissant cet endroit, ce pauvre village, pour premier siège de la tyrannie de Satan, et en faire, comme c'est le cas, le rendez-vous des diables, lieu où ils rassemblent leurs forces infernales.
Je pense qu'il faut aussi parler des religieuses, puisque la religion a été à la fois un vecteur d'obstruction, mais aussi parfois d'apprentissage et d'instruction pour les femmes dans le domaine de la médecine.
Alors, le retour à la réalité, effectivement, il est assez complexe, hein, puisque l'éviction des femmes, c'est intenable d'un point de vue pratique. Et après avoir fait brûler sur place publique les impures sorcières, c'est aux angéliques religieuses qu'on fait appel, et en masse. Elles exerçaient déjà depuis le Moyen-Âge, mais elles sont revenues en nombre dans les campagnes au début du 19e siècle. Et ça, c'est l'historien Jacques Léonard qui le raconte dans un article paru dans une revue universitaire. Il raconte comment la France a connu un véritable afflux de religieuses pendant un siècle qu'il décrit lui-même antiféministe et allant de pair avec la recatholicisation sociale et scolaire. Donc, chouette époque et beau programme. Il cite notamment Chateaubriand qui s'était complètement emballé à la vue d'une religieuse pratiquer la médecine dans son livre « Le génie du christianisme ». Et alors là, je cite, ouvrez les guillemets, qu'il était touchant de voir une femme jeune, belle et compatissante exercer au nom de Dieu près de l'homme rustique la profession de médecin. On remarquait en elle, comme dans toutes les sœurs, cet air de propreté et de contentement qui annonce que le corps et l'âme sont également exempts de souillure.
Oula, Ok, on se calme. Donc voilà, ensuite, les femmes ont officiellement fait leur entrée en médecine à la moitié du 19e siècle. Donc il aura quand même fallu attendre très très longtemps.
Ouais, puisqu'il a fallu attendre 1875 pour qu'une Française puisse être titulaire d'un doctorat en médecine. Et Madeleine Bray, elle a beau être la pionnière, les préjugés restent tenaces et on n'enregistre malheureusement pas beaucoup d'inscrites à la faculté de médecine de Paris pendant les décennies qui suivent. Et surtout, les bancs sont occupés par des étrangères en majorité. Les Françaises restent longtemps minoritaires à s'y instruire.
Oui, il faut dire que si Madeleine Bray y est finalement arrivée, c'est parce qu'elle a galéré de ouf. À titre d'exemple, lorsqu'elle demande à passer le concours de l'externat et de l'internat, le directeur de l'administration de l'assistance publique lui refuse ce droit malgré les pétitions et les manifestations en sa faveur, et il lui écrit « S'il ne s'était s'agit que de vous personnellement », donc l'objectif est clair, en fait, ne pas faire de son cas un précédent, et finalement, elle a dû passer par des ministres, elle a dû se faire aider par l'impératrice Eugénie pour pouvoir s'inscrire, enfin voilà, c'est vraiment rocambolesque, donc tout ça pour ça, quoi.
Madeleine Bray, 1842-1921, est la première femme française diplômée de médecine. La toute petite, elle joue les médecins. Pourtant, étant une fille, cette carrière lui est inaccessible. Mais c'est sans compter sur sa volonté. Elle focalise son travail sur la pédiatrie, la relation mère-enfant et l'hygiène.
Ouais, d'autant plus que l'ouverture de l'enseignement de la médecine aux femmes, tu te l'imagines bien, ça faisait pas non plus l'unanimité parmi ses professeurs. Et si le célèbre neurologue Jean-Martin Charcot, par exemple, signe la pétition en faveur de l'internat pour les femmes, il représente clairement un courant de pensée de son époque, selon l'historienne Nathalie Pijard-Micaud, spécialiste de l'histoire des femmes en médecine et en sciences. Et pour Charcot, c'est la nature des femmes qui n'en fait pas de bons médecins. Et à ce sujet, Nathalie Pijard-Micaud, elle développe l'argumentaire de l'époque et compte, je cite, de par sa nature, la femme n'a pas la force physique nécessaire au métier de médecin lorsqu'il s'agit de soulever le malade. C'est toujours la nature physique qui contraint la femme à être faible une semaine par mois durant ses menstruations. Comment pourrait-elle se soigner alors qu'elle devrait se ménager ? Ensuite, la nature esthétique constitue un nouvel obstacle. La femme est belle et délicate par nature, en total contraste avec la vulgarité des corps qu'elle peut être amenée à soigner. Et la sensibilité naturelle de la femme constitue un troisième obstacle. Elle est profondément dégoûtée par la vue du sang, des corps découpés, de la saleté. Enfin, la nature interdit aux femmes les rôles qu'elles veulent remplir à cause d'un quatrième obstacle, cette fois psychologique, le caractère très orgueilleux et ambitieux de la femme. Ce n'est jamais un rôle secondaire qu'elles ont la prétention de remplir quand elles veulent remplacer les hommes. Sinon, pourquoi ne pas se contenter d'être infirmière ou sage-femme ? Bref, l'argument de la nature, le paradoxe dont on parlait plus tôt, et il serait trompeur de croire que ces préjugés misogynes ont été sans conséquence sur la situation que l'on connaît aujourd'hui.
Ouais, franchement, il faut vraiment déconstruire tous ces arguments fallacieux et surtout dire que les femmes ont peur de la vue du sang, mais lol, par où commencer ? Bref, je pense qu'il faut faire quelques petits portraits aussi de médecins et de femmes médecins illustres. Je pense qu'on peut d'abord parler d'une infirmière qui est très connue en Angleterre au 19e siècle, c'est Florence Nightingale, qui a réellement fait évoluer la médecine, qui était féministe. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, pour une dame de la bonne société, évidemment, ça se faisait pas trop d'aller trifouiller des viscères, sauf pour des visites de charité, voilà, de très loin, avec un mouchoir sur le nez. Et surtout qu'au 19e siècle, les soins étaient privés et à domicile, et les hôpitaux étaient vraiment des mouroirs pour les pauvres. This absurd notion of becoming a nurse, which I will never agree to. Don't bring God into this again. Donc évidemment, ses parents voulaient plutôt la marier. Du coup, elle a fait poireauter son fiancé pendant 6 ans. Et quand finalement il a lâché l'affaire, elle a fait des stages dans des hôpitaux. Elle a convaincu le gouvernement de l'envoyer avec d'autres infirmières au front pendant la guerre de Crimée. Et là-bas, elle a écrit toute une étude statistique pour améliorer les conditions sanitaires, parce qu'en fait, les soldats mouraient surtout de ça, quoi, des mauvaises conditions sanitaires, plus que de leurs blessures. Donc ça a été un succès, elle a été invitée par la reine Victoria, ses écrits ont permis de réformer la médecine de guerre, de faire baisser la mortalité des soldats, enfin voilà, gloire à elle, et d'ailleurs on peut visiter son musée à Londres, voilà, si un jour on peut retourner en Angleterre.
Ouais, si un jour on peut, effectivement. Sinon, sur le thème, une patiente célèbre car martyrisée, c'est Typhoid Mary. Dans les années 1900 à New York, Mary Mullen était cuisinière et elle a été accusée d'avoir propagé la fièvre typhoïde à toute la famille pour qui elle travaillait. On a découvert qu'elle était la première porte-saine de la science américaine. Du coup, elle a été placée à l'isolement dans un hôpital sur une île de l'état de New York.
Pendant 3 ans, elle vit au Riverside Hospital sur une petite île au large de New York, North Brother Island. Mais la situation pose des problèmes juridiques. Elle ne peut être retenue enfermée contre son gré alors qu'elle n'est officiellement coupable d'aucun méfait.
Et la presse lui a taillé un costard et l'a accusée d'être une sorcière, évidemment, hein, comme toujours. À l'époque, elle est libérée, mais elle continue à refourguer la maladie autour d'elle, donc elle retourne sur l'île. Et elle y a vécu 26 ans en quarantaine, jusqu'à sa mort d'un AVC en 1938. Bref, une horreur. Maintenant que l'hôpital a fermé et que l'île est déserte, on n'a toujours pas le droit de la visiter. Mais il y a des légendes sur son fantôme qui circulent.
Brrr, ça fait flipper. Mm. Et je pense qu'il faut aussi parler du chirurgien trans James Barry, qui était un des médecins les plus respectés, encore une fois, au 19e siècle en Angleterre.
One of them is Dr. James Barry, a successful British military surgeon who worked hard to improve the lives of lepers, prisoners and soldiers, and performed the first cesarean section in Africa.
C'est quelqu'un qui a beaucoup aidé les soldats dans l'armée, cette fois-ci en Afrique du Sud, qui a installé des systèmes de purification de l'eau, une léproserie, il a amélioré la situation des esclaves, des prisonniers, des malades mentaux. Et en fait, on a su qu'après sa mort, que c'était une personne trans, c'est-à-dire assignée femme à la naissance, puisque dans son testament, il avait demandé à ce qu'on ne manipule pas son corps. Mais au moment de sa mort, sa bonne, en fait, a découvert son identité et a alerté les autorités, et ça a fait scandale. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on a tendance à donner son dead name, donc son nom d'origine, ce qu'on ne va pas faire dans cet épisode, et on le présente encore souvent comme une femme travestie ou habillée en homme, de manière assez transphobe. D'ailleurs, à ce titre, la comédienne Rachel Weisz va jouer son rôle au cinéma, voilà, au lieu d'une personne trans. Voilà, problématique. Je pense qu'on peut parler un petit peu, pour revenir à aujourd'hui, au temps présent, de la féminisation du métier et d'où on en est.
Ouais, puisque effectivement, alors si aujourd'hui on constate une féminisation des professions de santé croissante en France, dit comme ça, ça a l'air positif, dans les métiers du care, du soin, en fait, cette féminisation, elle se fait par le bas, donc c'est-à-dire sans monter dans la hiérarchie et de manière horizontale avec des spécialités moins reconnues qu'on attribue aux femmes. Et comme souvent, le sexisme, il intervient surtout dans le monde du travail. D'ailleurs, en 2018, un collectif de médecins avait publié dans Le Monde une tribune avec des chiffres selon lesquels 54% de la population des médecins de 35 à 50 ans étaient des femmes en 2016, hein, donc une majorité. Et comparativement, en 2017 et 2018, sur 366 nominations à un poste de professeur des universités, seulement 28% concernaient des femmes. Et ces mêmes années, 38% des maîtres de conférences étaient des femmes. Bref, l'écart se creuse, plus les spécialités sont valorisées, selon qu'on parle d'anesthésie, de médecine intensive, de réanimation, de psychiatrie ou de rhumatologie.
Oui, donc surtout le sexisme s'apprend avant ça, dès l'école de médecine, où on apprend un point de vue surplombant, à ne pas écouter la douleur des femmes, et en particulier des femmes racisées, où pas une minute n'est consacrée à l'endométriose, par exemple. Et on sait aujourd'hui que les internes en médecine vivent dans ce qu'on appelle une culture de la violence. Il y a eu au moins 2 thèses qui ont été publiées sur le sujet, qu'ils et elles subissent tous les harcèlements possibles, moral, sexuel, etc. Il y a d'ailleurs eu un hashtag qui s'appelle Balance ta blouse, qui s'est créé sur les réseaux sociaux pour dénoncer tous ces phénomènes.
Autre stage, autre chef de service et nouvelle humiliation pour Julia.
Et il me fait venir dans son bureau et là il avait préparé un café et finalement il arrive face à moi, il me tient par les épaules et là il essaie de m'embrasser. Je disais non mais ça n'avait pas l'air de... J'avais pas l'air de comprendre quoi.
Et donc le sexisme ordinaire est vraiment partout dans le monde de la médecine. D'ailleurs, on se souvient d'une fresque pornographique qui a été découverte au CHU de Clermont-Ferrand. Mais en fait, c'est des pratiques qui sont assez courantes un peu partout dans le milieu hospitalier. Alors évidemment, quelles conséquences cette sous-représentation peut avoir dans les traitements et dans le biais des traitements? Bah déjà, certaines pathologies dites féminines sont totalement ignorées. C'est le cas de l'endométriose, du SOPK, donc du syndrome des ovaires polykystiques, des traitements à la testostérone que certaines personnes demandent. Les femmes sont aussi moins bien diagnostiquées. Il faut savoir que la première cause de mortalité pour les femmes, ce n'est pas le cancer du sein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais ce sont les maladies cardiovasculaires. Or, les signes d'une attaque ne sont pas les mêmes chez une femme que chez un homme. Ça va être plutôt un essoufflement par rapport à une douleur thoracique pour les hommes. Voilà.
On peut aussi également évoquer les fibromes utérins, ces petites tumeurs bénignes qui se développent dans l'utérus et qui affectent deux fois plus les personnes noires que les blanches selon une étude réalisée en 2004. Les fibromes, c'est souvent sous-diagnostiqué, il faut le savoir, et très mal compris. Et encore aujourd'hui, aucune étude scientifique ne permet d'affirmer la cause de cette pathologie et il n'y a aucun traitement médicamenteux qui a été développé pour les éliminer définitivement. Et si les symptômes sont trop importants, on envisage le plus souvent une hystérectomie, un acte chirurgical qui consiste à enlever l'utérus en entier ou seulement en partie, et c'en est d'ailleurs la cause principale en France.
Oui, c'est vrai qu'en France, on le rappelle, on ne peut pas faire des études selon la race, contrairement à des pays anglo-saxons, et donc ça invisibilise totalement la spécificité de certains problèmes et de certaines catégories de la population.
Justement, pourquoi les femmes sont-elles mal soignées ?
C'est justement la question que pose le nouveau livre dont on va parler, qui s'appelle « Mauvais traitement » de Delphine Bauer et Ariane Puccini, et qui se penche donc sur les effets secondaires, notamment, et les scandales à la chaîne. Notamment, cette année, on a appris, par exemple, que les pilules progestatives, le lutéran et le luténil, entraînaient des risques neurologiques, donc de tumeurs au cerveau. Voilà, très agréable. Alors, que nous dit cet ouvrage ?
Eh ben, cet ouvrage, il nous dit quelque chose de très intéressant. Les femmes sont le dénominateur commun des affaires Mediator, Levothyrox, Prothèse PIP, Androcure, Thalidomide, Distilbène.
Le Distilbène, médicament interdit en France depuis 1977, n'en finit pas de faire des ravages. On savait que cette hormone, prescrite à 200 000 femmes pour éviter les fausses couches, avait provoqué des malformations chez leurs enfants. On apprend aujourd'hui que certaines malformations se retrouvent chez la troisième génération, c'est-à-dire les petits-enfants des femmes traitées.
Vioxx, Dépakine...
Rien que ça.
Ouais, rien que ça. Ce sont les principales victimes des effets secondaires et en France, comme ailleurs dans le monde, les femmes sont statistiquement plus nombreuses à subir les effets secondaires des médicaments. Elles sont aussi plus nombreuses à prendre des traitements, hein, ça c'est un fait, mais le Government Accountability Office, l'équivalent de notre Cour des comptes, a fait une enquête pour voir si les médicaments qui étaient retirés du marché affectent plus les femmes que les hommes et la réponse était oui. À vrai dire, les corps des hommes et des femmes sont anatomiquement différents. Les symptômes varient pour les mêmes maladies et c'est la source de minimisation de risques et de mauvais diagnostics, comme pour les maladies cardiovasculaires, comme tu l'as dit tout à l'heure. Le Sex and Gender Women's Health Collaborative, présidé par l'urgentiste américaine Alison McGregor, s'occupe de collecter des études sur les différences sexuées en médecine et en 2015, elle donnait une conférence TEDx intitulée « Pourquoi les médicaments ont-ils souvent des effets secondaires dangereux pour les femmes ? » Et selon elle, force est de constater aujourd'hui que le corps de référence, le corps neutre, donc, dans la science, reste masculin.
Oui, c'est intéressant de voir comment on a construit ces corps comme les corps de référence et comment la médecine, finalement, n'est pas simplement le reflet d'une réalité biologique ou autre, mais comment elle a vraiment construit et façonné ce qu'on perçoit comme étant donné et naturel. D'ailleurs, cette question-là, donc des effets secondaires, elle a été beaucoup étudiée à l'étranger, mais en France, en fait, il n'y aurait qu'une seule étude sur donc le sujet des effets secondaires sur les femmes. Et donc après quand même des siècles à avoir stigmatisé les corps féminins quand ça nous arrange, c'est comme si on n'avait pas pensé à genrer ces questions-là médicales, alors que les associations de victimes de médicaments sont surtout des femmes et que les essais cliniques, à l'inverse, manquent de femmes. Donc, c'est-à-dire que soit, en fait, elles sont écartées des essais cliniques, soit elles sont cantonnées à des spécificités dites féminines comme le cancer du sein ou la ménopause, ou bien elles sont simplement utilisées comme cobayes. On en parlera un peu plus tard. Donc, d'où vraiment l'utilité de ce livre, puisqu'en fait, il explique bien qu'à cause du sexisme, on continue à dire aux femmes tout et n'importe quoi sur la médecine, donc par exemple que la pilule du lendemain ou le stérilet serait dangereux, ce qui est faux, mais par contre, on leur recommande très chaudement, par tout un tas d'injonctions, de prendre des médicaments contre l'hirsutisme, donc par exemple l'androcure, qui aujourd'hui, on le sait, est un médicament toxique, ou bien de prendre des traitements pour maigrir, donc par exemple avec le Mediator, on en connaît aujourd'hui les conséquences. Et ce que dit le livre, c'est qu'il faudrait plutôt soigner la société, donc vaste programme, mais en tout cas, les deux autrices nous rappellent que les médicaments ne sont pas neutres, même s'ils sont censés nous soigner tous et toutes de la même manière. Je cite, ce sont des produits pensé par les hommes, pour les hommes et prescrit et commercialisé par une majorité d'hommes, c'est tout un système de santé qui participe à ces inégalités. Donc je ferme la parenthèse. Et en fait, voilà, à travers le cas de ces médicaments contre l'acné, les bouffées de chaleur ou les fausses couches, dont on connaît aujourd'hui enfin la toxicité, on apprend en fait pas mal d'autres choses, notamment, moi j'en ai retenu un, c'est le myconazol, qui est un composé qui se trouve dans les prescriptions contre les mycoses vaginales. Donc c'est un truc qui est utilisé un peu par tout le monde. Voilà, il y a aussi une chercheuse interviewée qui se demande s'il faudrait pas carrément donner des médicaments différents aux femmes et aux hommes, c'est-à-dire par exemple changer de dosage ou en tout cas mettre en place une médecine personnalisée qui prenne en compte vraiment les spécificités de chaque patiente. Alors on pourrait croire que c'est ce que fait l'industrie pharmaceutique puisqu'elle markete effectivement des produits à destination des consommatrices, mais en réalité elle se contente de changer la couleur du paquet rose et de la pilule rose tout en augmentant le prix alors que la composition n'a pas changé, ce qui est quand même hallucinant. Donc par exemple, il y a le Nurofen Femme qui est censé être fait pour les douleurs de règles, mais en fait dedans il y a exactement la même chose que dans le Nurofen normal, c'est juste rose et plus cher. Et par ailleurs, l'industrie pharmaceutique, il faut le rappeler, a quand même contribué à pathologiser des maux féminins comme la ménopause en donnant par exemple des traitements hormonaux de substitution qui ont été parfois très problématiques pour les femmes concernées. Ce regard vraiment sur les femmes et sur les personnes qui s'identifie comme femme a pu être très paternaliste. Il faut également savoir que pour certains vaccins, parfois une demi-dose suffit pour les femmes, donc je pense que toi et moi, on va regarder attentivement ce qui va se passer avec le vaccin contre le Covid, si les essais cliniques sont aussi faits sur des femmes et quels sont les effets secondaires. Alors attention, le livre n'est absolument pas un essai ni complotiste ni anti-vax, simplement il met en lumière des œillères, des biais et des abus. D'ailleurs, je pense que chez nous, en tout cas peu de Français et de Françaises savent que depuis 2017, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, donc l'ANSM, met à disposition un formulaire en ligne pour faire remonter les effets indésirables observés. Enfin, je sais pas si toi t'étais au courant, mais moi je savais pas du tout.
Non, je l'étais pas avant la lecture de ce livre, tu vois. Donc sur un plan plus direct que sur le sujet des effets secondaires, ces sous-représentations dans le corps médical, elles ont aussi pour conséquence les violences sur les patientes et elles sont nombreuses. Elles peuvent être obstétricales par exemple, le point du mari, l'épisiotomie non nécessaire qu'on pratique sur les femmes qui accouchent. Elles peuvent être gynécologiques, d'ordre raciste, grossophobe, LGBT-phobe. Et à ce sujet, Anne-Laure Pinault avait longuement enquêté pour Comitide sur la SOFECT, la Société française d'études et de prise en charge de la transidentité, qui traîne une réputation déplorable auprès des personnes concernées et ô combien cette réputation est méritée. Ça peut être aussi les touchés vaginaux sur les personnes endormies. En 2018, les élèves en gynéco le pratiquaient toujours et ce malgré le scandale de 2015.
Ouais, tout va bien. Et donc, il faut aussi parler des violences qui sont spécifiques aux femmes non blanches, puisque c'est vraiment inscrit dans l'histoire de la médecine. D'ailleurs, la première pilule contraceptive qui s'appelait Enovid a été testée à l'époque à Porto Rico, donc ça c'était dans les années 50, sur des femmes qui ont vraiment été des cobayes de pratiques eugénistes et absolument pas bien encadrées. On doit aussi pas mal d'avancées gynécologiques à des femmes noires qui ont été sacrifiées, notamment par le médecin américain James Marion Sims, dont la statue a été récemment déboulonnée à New York, tant mieux. Celui-ci avait en fait développé des outils comme le spéculum et des techniques chirurgicales qui sont largement employées aujourd'hui, en pratiquant sans anesthésie des expériences violentes sur des esclaves noirs. Voilà.
Et il faut pas croire que dans les violences spécifiques aux femmes non blanches, la France n'a pas joué de rôle et ne continue pas d'en jouer un, hein, puisque la politique démographique à deux vitesses raciste, coloniale et classiste de la France en Outre-mer, ça a été la source de milliers d'avortements et de stérilisations forcées à La Réunion. Je le rappelle, c'est un territoire départemental français. Ça a été fait sur les femmes noires dans les années 60 et 70, et ça, Françoise Vergès le raconte très bien dans son livre « Le ventre des femmes ».
Le 20 août 1970, le scandale éclate sur l'île de La Réunion. La presse locale relate une sombre histoire à peine croyable. Le docteur Moreau planifiait l'avortement de femmes sans leur consentement, dans cette clinique aujourd'hui abandonnée.
Oui, et parallèlement aux États-Unis, presque 8000 femmes et hommes en ont fait les frais jusqu'au milieu des années 70, puisqu'un programme eugéniste dit d'intérêt public, hein, donc je mets d'énormes guillemets, empêchait notamment les personnes noires de se reproduire. Donc très agréable.
Ça me paraît aussi important de dire à quel point la douleur des personnes non blanches n'est pas entendue de la même manière. C'est particulièrement le cas pour les personnes noires que l'on pense plus résistantes à la douleur par préjugés racistes. Et c'est ce que l'on appelle le syndrome méditerranéen, quand le personnel soignant pense que les patientes et patients noirs et arabes exagèrent leurs symptômes.
Oui, et d'ailleurs, on va écouter le témoignage vraiment révoltant de Fatoumata, qui a raconté au Bondy Blog comment elle a accouché dans un couloir de l'hôpital Jean Verdier de Bondy, en Seine-Saint-Denis.
Je lui dis non, là, je sens que c'est maintenant que je vais accoucher, et j'ai à peine fini ma phrase que je sens mon bébé sortir, en fait. Donc, je suis debout dans le couloir, entre deux portes, aux urgences, et j'accouche, en fait. Là, à ce moment-là, je suis choquée, je suis effondrée. J'ai la gynécologue qui me dit « Vous avez trois enfants, déjà, faut pas vous dire que vous aurez plus d'enfants, ça arrive de temps en temps, c'est comme ça. » J'ai pas compris à ce moment-là son discours. J'étais juste sous le choc, en fait. Je venais juste d'accoucher dans un couloir de mon bébé mort-né, donc il fallait que j'encaisse la nouvelle, quoi. Je mélangeais entre de la tristesse, parce que déjà, je vois mon enfant, je me dis qu'il aurait dû être dans mon ventre, qu'il est mort-né, que voilà, ça nous fait de la peine déjà, parce qu'on l'attendait vraiment. Et qu'on le traite comme ça, en fait, je commence à avoir un sentiment limite de haine qui monte. Parce que je me dis qu'il est là, je le vois, je le reconnais, c'est mon enfant. Et je me dis, ben, on l'a pas respecté, en fait.
Ce témoignage, il m'a forcément rappelé l'affaire Naomi Musenga, je ne sais pas si tu te rappelles. Elle est morte quelques heures après avoir appelé le SAMU, et les deux opératrices s'étaient moquées de ses douleurs en sous-entendant qu'elle les exagérait. J'ai aussi en mémoire le texte de blog raciste et grossophobe d'une généraliste qui racontait à quel point elle redoutait la femme arabe de 50 ans qui ne maîtrisait pas la langue. Et je pense que ce texte illustre comment les personnes non blanches sont déshumanisées dans le corps médical. Je pense que ces abus seraient davantage pris au sérieux si les statistiques dites ethniques n'étaient pas interdites.
Oui, et finalement, c'est pas simplement évidemment une question de géographie, hein, ce syndrome méditerranéen, puisqu'il dépasse largement les frontières de l'Europe. Bizarrement, les femmes non blanches y sont aussi confrontées, par exemple en Amérique du Nord, donc au Canada ou aux États-Unis.
Ouais, en septembre dernier, le décès de Joyce Echaquan, une femme autochtone, a suscité la polémique là-bas, puisque malgré le fait qu'elle ait insisté pour qu'on ne lui donne pas de morphine, on la lui administrera de force dans un hôpital québécois. Et avant de succomber à ses mauvais traitements, la femme de 37 ans a diffusé en direct une vidéo sur Facebook dans laquelle elle appelle à l'aide, alors qu'on entend une soignante la qualifier de stupide comme l'enfer et bonne que pour le sexe.
Oui, c'est vraiment affligeant. On voit bien, en fait, quand Foucault parle de médecine sociale à propos du biopouvoir, c'est-à-dire du pouvoir sur la vie, qu'en fait, il s'agit bien d'une technique d'objectivation de certaines catégories, c'est-à-dire qui va avoir droit à des soins et à des soins de qualité, hein, CF les médecins qui n'acceptent pas la CMU, par exemple, pour les patients et les patientes les plus pauvres. Et d'ailleurs, il y a une initiative qui s'appelle Globule Noir, qui a demandé des soignants noirs pour des patients noirs et qui a vu son compte Twitter fermé par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, hein, c'est vraiment un comble, qui dénonçait une folie identitaire. Ok, alors que pourtant l'idée était quand même plutôt intéressante. Et d'ailleurs, c'était une réponse au hashtag « balance ton médecin » et « médecin raciste ».
Est-ce que tu as des conseils, du coup, pour nos auditrices et auditeurs ?
Oui, alors il y en a tellement. Je conseillerais d'aller jeter un œil sur The Lowdown, qui est un site anglais qui permet, en fait, de noter sa contraception et de faire remonter les effets secondaires.
Ah, pas mal, ouais.
Ouais, c'est hyper pratique et évidemment, ça n'existe pas encore en France. C'est un site qui compile tous les effets secondaires et, en fait, on peut regarder, c'est classé selon chaque contraceptif. Donc, si ça a un effet sur la peau, sur les règles, sur les douleurs, sur la libido. Par exemple, un contraceptif qui est très bien noté, c'est la stérilisation pour les femmes. Je trouve ça quand même assez chouette. C'est très bien fait, c'est inclusif pour toutes les personnes, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi plein de personnes qui prennent des contraceptifs, pas forcément pour se contracepter. Les hommes sont aussi inclus, il y a le préservatif masculin, il y a la vasectomie, etc. Donc, allez faire un tour. Et toi ?
Et pour ma part, moi, je vous recommande chaudement la newsletter de ma chatte et la liste Gyn & Co. de soignants et de soignantes safe, puisque moi, je ne passe plus que par des femmes, je l'avoue.
Ouais, pareil, je te comprends. Je vous recommanderais aussi le podcast de mon amie Marine qui s'appelle « Demande-t-on aux carottes ?» qui est en fait une discussion dans chaque épisode avec des soignants et des soignantes. C'est vraiment hyper intéressant. Vous pouvez aussi vous référer à l'association Pour une meuf, donc médecine engagée, unie et féministe. Vous pouvez aussi lire le nouveau livre de Martin Winkler, un allié à la cause, qui s'appelle « C'est mon corps ». Voilà, donc lui, il a beaucoup parlé de contraception et de violences gynécologiques bien avant qu'on en parle dans les médias. Et donc, on le remercie. Merci, voilà. Alors on va parler un petit peu de notre expérience avec la médecine. J'imagine qu'elle est vaste, mais toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Moi, mon expérience, elle est quand même assez complexe, hein, puisque j'ai une confiance toute relative dans le corps médical, sachant que j'ai eu un parcours IVG assez nul. On m'a fait une échographie et on m'a obligée à écouter le cœur du fœtus. Donc ça, c'était assez agréable.
Quoi ?
Ouais, quelle horreur. Bah ouais. Ouais, voilà. Et depuis, je vois que des femmes, en fait. Je le disais tout à l'heure, mais c'est spécifiquement depuis cet événement. Et comme ça, ça limite mes mauvaises expériences. Ça veut pas dire que j'en aurais pas avec des femmes, mais quand même, j'en aurais certainement moins, je pense. Et toi, alors, du coup ?
Eh ben, moi, c'est vrai qu'en ce moment, je me sens un peu ambivalente, puisque pleine de gratitude pour les soignants et les soignantes, comme tout le monde, hein, qu'on a applaudi il y a quelques mois à 20h avant d'oublier totalement. Et en fait, je décolère pas face à ce gouvernement qui décide de confiner les gens, mais de ne pas financer l'hôpital. Enfin, si, je crois que les soignants ont reçu peut-être 90 euros d'augmentation, quoi, super. Donc, c'est vraiment une aumône. Je trouve ça incompréhensible, en fait, de les abandonner comme ça, de ne pas avoir préparé de deuxième ou de troisième vague, de ne pas leur donner plus de moyens. C'est d'un cynisme et d'un mépris, en fait, pour cette profession absolue. Et je me demande si ce gouvernement se dit, bah peut-être bon, c'est de braves fonctionnaires, de toute façon, ils vont faire le taf. Et en plus, c'est que des vieux qui meurent, donc on s'en fout. Voilà, je me demande si c'est réellement ce qu'ils pensent. Enfin, je pense qu'on ne saura jamais, mais en tout cas, je trouve ça assez scandaleux. Après, pour parler, moi, de ma propre expérience, je me suis souvent rendu compte que beaucoup d'hommes hétérocis n'allaient jamais chez le médecin et que la santé était donc, comme d'habitude, confiée aux femmes comme étant une compétence, donc y compris la santé sexuelle, la santé du couple, etc. C'est très chiant, donc allez vous faire soigner les gens, allez vous faire tester, ouais, voilà. Après, moi, même avant d'avoir lu le livre dont on parle cette semaine, ça fait longtemps que je pars du principe que les médicaments, y compris le Doliprane par exemple, sont trop forts pour moi parce qu'ils sont testés pour des hommes et des gens qui n'ont pas le même gabarit que moi. Donc en fait, moi j'en prends systématiquement la moitié parce que j'ai souvent eu des effets assez désagréables. Voilà, je sais pas si j'ai raison de faire ça, mais en tout cas c'est ce que je fais et pour l'instant je ne m'en plains pas. Et figure-toi aussi que justement grâce à ce bouquin Mauvais traitement, je me suis aussi rendu compte que le médicament que je prends pour ma maladie chronique figure dans la liste des médicaments toxiques et à risque selon la revue Prescrire, donc il y a un risque cardiovasculaire, ouais,
oh,
enfer, donc voilà, je suis contente de m'en être rendu compte à temps. Sinon, moi, de mon côté, je recommande un centre médical féministe à Paris qui s'appelle Ipso. C'est un endroit où on vous demande la permission avant tout acte médical. On vous soumet aussi un questionnaire au début en vous demandant, par exemple, est-ce que vous avez subi des violences. Et franchement, c'est vraiment super, donc je le recommande à tout le monde. Allez-y si vous êtes à Paris ou en région parisienne. Voilà, sachez également que si vous faites certains examens, vous pouvez les faire vous-même. C'est le cas pour le prélèvement vaginal. En fait, il suffit de demander à l'accueil du laboratoire. Voilà. Et moi, j'utilise aussi pas mal l'application qui s'appelle Livy. Alors oui, on a fait de la pub pour cette appli, mais là, ce n'est pas une pub. C'est vraiment mon avis. C'est une application qui évite les violences, en tout cas physiques, dans le parcours de soins et qui permet d'avoir un rendez-vous en restant chez soi. Donc c'est pas mal. Voilà. Et alors, est-ce qu'on a un témoignage cette semaine ?
Oui, on a le témoignage de Floriane.
Bonjour, je m'appelle Floriane, j'ai 25 ans et je suis étudiante en 6e année de médecine. Pour moi, c'était assez logique de, si on devait faire un métier, de choisir un métier où on pouvait aider les gens. Pour moi, c'était assez simple dans ma tête. J'étais moins motivée pour faire médecine parce qu'en fait, je m'étais découvert une passion qui est la photographie. Du coup, je passais mon temps à faire des photos et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup hésité entre la photo et la médecine. Le truc, c'est que moi, je viens pas forcément d'une famille riche, enfin même pas du tout en fait. Mes parents viennent de l'immigration africaine, donc c'était pas facile pour eux. Et souvent en fait, enfin c'est un cliché, mais pas vraiment. Leur idéal, c'est d'avoir un enfant qui fait médecine ou droit. Enfin c'est un peu l'image c'est leur réussite à eux. Et du coup, oui, j'ai réalisé leur volonté. Donc voilà, je me suis lancée tête baissée dans la médecine sans vraiment savoir ce qui m'attendait. J'avais cette idée, oui, qu'il y avait ouais, ce concours assez, assez difficile, mais je ne savais pas que la suite l'était tout autant. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Alors du coup, ouais, moi, je suis à l'externe. Du coup, le concept, c'est qu'on est à l'hôpital chaque matin, du lundi au vendredi, sans compter les astreintes et les gardes. Et l'après-midi, eh bien, on étudie, on a des cours à la fac ou bien on est à la bibliothèque chez nous, quoi, dans les bouquins. Franchement, l'externat, c'est essentiel parce que dans tes bouquins, tu apprends des pathologies avec leurs signes, etc. Mais le patient, quand il est devant toi et quand il a cette pathologie, déjà, c'est pas écrit sur son front que c'est cette pathologie et surtout, il présentera pas forcément les signes typiques et il viendra aussi avec ses peurs, te dira pas forcément tout. Donc le taf de médecin, c'est aussi investiguer, chercher les signes, établir un lien de confiance pour que le patient puisse te parler et aussi pour qu'il accepte par la suite les soins qui lui seront nécessaires. Et ça s'apprend pas dans les livres, en fait. On est obligé de le travailler au lit du malade, et ça se fait à l'hôpital, quoi. Donc c'est pour ça que franchement l'externat, je l'ai aimé, quoi, juste pour ça. Niveau salaire, vraiment notre travail n'est pas valorisé. On commence l'externat, enfin la majorité des externes commencent en troisième année de médecine, et là tu peux gagner environ 100 euros, un peu plus de 100 euros par mois, et tu finis en sixième année à gagner 300 euros. Je trouve que c'est un peu ric-rac pour mener une vie d'étudiante à Paris. C'est-à-dire, à part l'externat, tu peux pas faire un autre job pour avoir de l'argent de poche, par exemple. Au début de l'année, quand j'entrais en études de médecine, je voyais mes copains qui avaient tous leur appart à côté de la fac. Et moi, je trouvais ça ouf quand on habite à Paris. Comment ça se fait qu'ils arrivent tous à avoir leur appart juste à côté? Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était les parents qui leur payaient leur appart, en fait. Et du coup, j'ai compris qu'en fait, la majorité des étudiants en médecine viennent de familles aisées. Et donc, ils ont la possibilité, dès le début, d'avoir leur appart à Paris, tout seul, quoi. Les études de médecine, enfin de santé en général, c'est assez connu que ce sont des études très féminines. Même en première année, je me souviens, les amphis, on était, oui, beaucoup de femmes. Et après, quand on va dans une filière plus particulière, moi, du coup, la médecine, au fil des stages, on se rend compte qu'en fait, les femmes sont présentes, mais elles sont plus présentes dans certains domaines. Par exemple, si tu prends un stage de chirurgie, je pense qu'avant, c'était moins le cas. Bon, il y a des femmes, mais il y en aura moins que dans un stage de pédiatrie. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Encore plus, chirurgie orthopédique. Bah, alors là, c'est un domaine où il y a vraiment beaucoup d'hommes et c'est un domaine qui est assez macho quand même, où on récolte beaucoup de témoignages d'étudiants en médecine qui subissent du harcèlement. D'ailleurs, j'ai essayé de pas passer en chirurgie ortho parce que voilà, j'avais pas envie de subir ça. Du coup, on retrouve les femmes toujours dans le même domaine. Les chefs de service, je les voyais toujours, c'était toujours des hommes en fait. C'était toujours des hommes. À part en pédiatrie, où je suis passée en stage de pédiatrie en néonatologie et c'était une femme. Et du coup, en réfléchissant, je me dis qu'en fait, les femmes, elles partent avec un frein en fait. Elles seront jamais mises à l'égal d'un homme dans ce genre de poste en fait.
Merci pour ce précieux témoignage, Floriane.
Le moment
pop
culture.
Pop culture.
Oui, alors pour parler un peu de médecine dans la pop culture, alors traditionnellement, le médecin est un homme et un bon parti, hein, CF, les séries Doctor House, Nip Tuck, etc. Hein, la médecine, ça fait toujours plaisir aux parents et aux beaux-parents. Et donc, hiérarchie oblige avec la secrétaire débile, l'infirmière sexy est quand même devenue un énorme stéréotype, c'est même devenu un tag porno et un costume d'Halloween. D'ailleurs, on en a une petite référence avec le personnage de l'infirmière borgne, elle, qui est jouée par Daryl Hannah dans Kill Bill, le film de Quentin Tarantino, et qui essaie à tout prix de dégommer Uma Thurman avec une seringue remplie de poison.
Hello, Bill.
What's your condition?
Comatose.
Ouais, et il y a une répartition assez genrée en fait du travail médical dans les représentations que fait la culture populaire. Dans le documentaire Lennox Hill, par exemple, qui est diffusé sur Netflix, les neurochirurgiens, c'est tous des mecs. Les femmes, quant à elles, elles jouent plutôt des psys, comme dans Sex Education, The Undoing. Et quant aux femmes non blanches, elles occupent souvent des postes subalternes.
Ouais, on n'est pas étonnés. Alors évidemment, on va pas faire une liste exhaustive puisqu'on n'aura pas le temps, mais je pense qu'il faut quand même mentionner Urgence dans les années 90, c'était quand même la meilleure série médicale. C'était les débuts de Juliana Margulis avant The Good Wife. Il y avait George Clooney tout jeune, voilà, c'était il y a 25 ans. Surtout, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il y avait quand même une parité des scénaristes et que sur les 331 épisodes, 59 ont été réalisés par des femmes, ce qui est en fait beaucoup. Et la série a vraiment été écrite de manière gender bender, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que les personnages féminins sont dans l'action. Par exemple, la chef de service est lesbienne et l'émotion ou l'émotivité est plutôt du côté des hommes médecins comme les docteurs Carter. Et surtout, la série valorisait vraiment le travail des infirmières, en tout cas, c'est ce que note le site Vulture. Par contre, il y a quand même quelques réserves puisque l'actrice qui jouait Elisabeth Corday a été virée de la série parce qu'elle a été jugée trop vieille à 41 ans. Merci. Et en parlant d'infirmière, justement, il y a une série qui a été assez peu vue et un peu mal aimée, c'est Nurse Jackie, qui parlait d'une femme qui galérait et qui était accro au médoc.
You have no idea what you're talking about.
You're a drug addict.
Mais
c'était avec Edie Falco, l'actrice merveilleuse des Sopranos. Voilà, je vous la recommande.
Et pour ma part, j'ai des souvenirs émus de Dr. Quinn que je regardais très petite, puisque j'étais une enfant biberonnée à la télé. Il y avait aussi Scrubs, où la médecin est une femme blanche bourgeoise et l'infirmière fille d'immigrée portoricaine, bien sûr, bien évidemment. Et surtout, il y a l'inénarrable Grey's Anatomy, la pièce de résistance de Shonda Rhimes. On ne va pas parler de Meredith Grey cette fois, hein, mais du gros morceau pour les fans de Christine Yang, jouée par Sandra Oh pendant 10 ans. Un personnage de chirurgienne hyper drôle, ambitieuse. Elle se fait avorter, elle quitte son mec qui veut la forcer à avoir un enfant, bref.
You did a cutthroat thing, deal with it. Don't come to me for absolution, you want to be a shark, be a shark.
Une vraie badass woman, comme on les aime, et 29 réalisatrices ont fait des épisodes, et ça, ça mérite d'être mentionné.
Ouais. Je sais, il faut vraiment que je rattrape cette série, j'ai honte. Alors, il y en a une autre, moi, que j'ai bien aimée, c'est The Nick, qui est une très belle série historique, entièrement gérée par Steven Soderbergh, qui filme les errances de la chirurgie au début du XXe siècle. Alors oui, le personnage principal est un homme, hein, qui est joué par Clive Owen, mais moi, j'avais été assez marquée par une patiente qui avait attrapé la syphilis à cause de son mari et qui avait perdu son nez. Voilà, quelle horreur.
Ah oui, ok. Elle avait perdu son nez à cause de la syphilis ou
ouais.
C'était son rapport.
Ouais,
okay.
Ouais.
Et en France, bah, ça me paraît important de citer Hippocrate, autant le film que la série que j'avais adorée grâce au personnage de Louise Bourgoin, où elle jouait un médecin qui donnait toute sa vie, en fait, pour sa profession, mais qui était ultra, ultra courageuse, et voilà. J'avais adoré son personnage. C'est un film et une série qui ont été réalisés par Thomas Lilty, qui est lui-même un ancien étudiant en médecine.
Quoi le problème avec les médecins?
Il y a un patient qui est mort. Un méningocoque. Bien vénère apparemment. Tous ceux qui ont été en contact restent chez eux et prennent un traitement préventif.
Et on lui doit d'ailleurs médecin de campagne et le très bourdieusien première année.
Oui, et alors petit message de service tant qu'on y est, on aimerait bien aussi que les personnages LGBT+, dans les séries et les films médicaux, ne soient pas systématiquement renvoyés à la pathologie ou à la tragédie. Moi, je pense par exemple aux films sur le VIH comme Philadelphia ou Dallas Buyers Club. Et quant aux films sur la chirurgie de réassignation, par exemple Danish Girl, s'il vous plaît, faites jouer des personnes trans par des acteurs concernés. Merci, au revoir.
On va parler aussi du motif de la médecine dans le genre horrifique, hein, puisque récemment, c'est Mildred Ratched, l'infirmière sadique du génial Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui a fait partie des pires méchants hollywoodiens, et ça lui a d'ailleurs valu un Oscar.
She's been described as a cold, heartless tyrant, the human embodiment of bureaucratic corruption.
Qui est revenue dans la série Netflix Ratched, qui raconte sa jeunesse d'infirmière à l'asile psychiatrique.
Ouais, ça donne pas hyper envie de se faire soigner, tout ça. Mais voilà, on ne perd pas foi en la médecine pour autant.
Qu'est-ce que tu kiffes ?
Qu'est-ce que t'écoutes ?
Les recommandations.
Qu'est-ce que t'as dans ta besace ?
Les recommandations
culturelles.
Qu'est-ce que tu lis ?
Les recommandations culturelles.
De quoi de meuf ? Alors, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine ? De la musique, peut-être ?
Ouais, de la musique, effectivement, puisque j'attendais avec impatience l'album de Bonnie Banane, qui est intitulé Sexy Planet. Sexy Planet, sexy planet, sexy planet. Et là, je suis vraiment grave là pour le revival du R&B français, surtout s'il est représenté par des artistes de cette pointure. Je l'avais découverte à l'époque de sa collaboration avec Midsizer et Ichon sur la 12 track Le Code.
Tu veux mon code, tu veux ma clé. Tu veux mon password, tu veux mon dé.
Et elle avait intégré ma bande-son de l'été avec la très poétique La Lune et le Soleil. Et là, vraiment, je suis très heureuse de passer un confinement avec elle et de nouvelles chansons.
Trop bien, je vais écouter, merci.
Et toi alors, est-ce que t'as une série à nous recommander par hasard ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est This Way Up qui est diffusée en France sur Canal+. C'est la comédie sur la dépression que vous attendiez tous et toutes.
Surtout, ah yes.
Surtout, il y a mon actrice irlandaise préférée, Sharon Horgan, à qui on doit, par exemple, Catastrophe, une merveilleuse série. Et donc, This Way Up suit, en fait, une jeune trentenaire fraîchement sortie d'un séjour en clinique qui essaye de retrouver des repères, un travail, peut-être un mec potentiel, et donc qui, en attendant, traîne avec sa sœur.
You've got a fire in you, and you can use that to heat yourself up, or you can use that to burn yourself and everyone else around you down.
Cet humour désespéré comme stratégie de survie, évidemment, fait un peu penser à Fleabag, ma série chérie, mais en tout cas, voilà, je vous la recommande. Vous me direz ce que vous en pensez.
Allô,
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 allô, monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme question cette semaine ?
Eh bien, il y a Mariam qui nous a écrit « Comment éviter la procrastination ?» Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si tu as la réponse, Clem, mais moi aussi, ça m'intéresse.
Oui, alors bon, déjà, je pense qu'il ne faut pas trop battre sa coulpe, surtout en ce moment, hein, quand même. C'est le Covid ou la Covid, c'est selon. Bon, moi, je peux juste donner ma technique, qui n'est pas une technique homologuée par qui que ce soit. Hein, c'est vraiment ce que je fais moi. C'est juste de faire des to-do list, c'est-à-dire de mettre sur le papier tout ce qu'on a à faire et de cocher les trucs au fur et à mesure. Moi, ça m'évite de me sentir débordée mentalement et de penser à tout un tas de trucs du moment que c'est écrit. Après, moi, entre chaque tâche effectuée, je m'accorde un petit temps pour faire autre chose. Ça peut être manger, faire un thé, même faire la vaisselle, sortir, enfin, peu importe. Et en fait, ça m'évite de travailler trop longtemps sans faire de pause. Et ça me donne une petite récompense, voilà, comme à un chien. Et sinon, je recommanderais de travailler soit en groupe, soit en collectif, parce que je trouve ça assez utile pour débriefer ses idées. Et ça permet, en fait, d'avoir des gens qui sont là pour vérifier que tu as bien fait ce que tu as à faire. Voilà, donc ce sont mes quelques tips. Je sais pas si toi, t'en as en plus, mais sinon, voilà.
Moi, personnellement, je dirais surtout de pas être trop dur avec soi-même. Et c'est vrai que ce qui m'aide en soi, c'est vraiment de faire des to-do list. Et puis, ouais, vraiment de moins en moins culpabiliser, puisque je culpabilisais beaucoup avant. Et depuis que je le fais moins, et ben, je procrastine moins. Donc, peut-être qu'il y avait un lien.
Bon, bah, on a fait, je pense, le tour de la question. On se retrouve la semaine prochaine avec un épisode court dans lequel on va parler de séries et pas n'importe laquelle. Quant à nous, vous pouvez retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts. Ça nous aide à être référencés. Merci. Salut Emeline.
Salut.
Quoi de meuf est une émission de nouvelles écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté avec Emeline Amétis.
Mixage Laurie Galigani. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Montage et coordination Ashley Tola.